Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous?
Claudine.
Un été avec Colette.
Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, ce chameau de Willy.
Willy, qui prononçait sans doute Willy et non Willy, et qui s'appelait pour de vrai Henri Gauthier Villard, était un sacré bonhomme. Fils d'un polytechnicien propriétaire de la première maison d'édition scientifique française, frère d'un autre polytechnicien, il appartenait à la bohème, était un critique musical averti, un des hommes les plus en vue dans Paris à la fin du siècle, et un dandy connu pour son fameux chapeau à bord plat. Quand il épousa Colette, sa cadette de 15 ans, il avait un fils, né d'une liaison adultérine, mis en nourrice non loin du village des Colettes après le décès de sa mère. Colette lui en voulut beaucoup après leur séparation.
« Que veux-tu ? »
dira-t-elle plus tard à une amie.
« Je n'avais pas le choix. Ou rester vieille fille, ou devenir institutrice. Je lui apportais mes 20 ans, ma fraîcheur et 1,58 m de cheveux. Ça l'a amusé un temps. »
Mais elle aima cet homme, mit longtemps à le quitter alors qu'il la trompa dès le premier jour avec des femmes de plus en plus jeunes.
Ces funestes adolescentes refluaient jusqu'à un domicile que je ne m'obstinerai pas à nommer conjugal.
Dira-t-elle dans Mes apprentissages où elle se venge de l'avoir aimé. Car il y eut en Willy une sorte de Pygmalion qui fut pour Colette non seulement un mari âgé et volage, mais un maître et un guide. Il est connu pour avoir dirigé un atelier de production de romans légers, qu'il signait de son pseudonyme, mais personne n'était dupe dans le milieu parisien.
L'idée ne vous est jamais venue de reprocher à M. Willy de signer de son nom les romans que vous écriviez.
Kurnonski, écrivain.
Mais je lui en étais reconnaissant parce que comme j'étais inconnu à ce moment-là, ça me rapportait beaucoup plus.
Willy concevait les plans et scénarios, puis il sous-traitait la rédaction. À l'un les descriptions, à l'autre les dialogues. Ensuite, il réécrivait en ajoutant des jeux de mots et des allusions salaces. Colette dira plus tard
« Si le cas Willy était seulement celui d'un homme ordinaire qui appointait des écrivains et signait leurs œuvres, il ne mériterait qu'une brève attention. Il y aura toujours assez de faméliques dans notre métier, malheureusement, pour que l'emploi de nègre ne se perde point. » Le cas Willy présente une singularité unique. L'homme qui n'écrivait pas avait plus de talent que ceux qui écrivaient en son lieu et place.
Que lui doit Colette dans les Claudines? Certainement les calembours, les grivoiseries, le saphisme, mais aussi la discipline de travail lorsqu'il l'enfermait pour qu'elle produise de la copie et une économie de la langue. Dans les marges, dit-elle, il inscrivait peu de louanges, mais surtout des réprimandes.
Est-ce que M. Willy, dès le départ, vous a aidé avec la Claudine? Par des conversations, par exemple, en vous indiquant des personnages ou des situations?
Plutôt par des indications. En effet, ça ne peut pas s'appeler une aide. Plutôt un conseil. Du piment.
C'était son mot.
N'ayez pas peur de pimenter, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de pimenter.
Colette dénoncera son impuissance, une sorte d'agoraphobie, une horreur nerveuse du papier vierge. Il écrivait sur des abattants d'enveloppes, des bandes de journaux, des coins de feuillets pour éviter la page blanche. Ce couple moderne tint durant une dizaine d'années, malgré les infidélités de Willy. En 1903, à 44 ans, il paraît vieux, bombé, comme elle dit, tandis qu'elle n'a que 30 ans. Mais ce qui les sépara irrémédiablement, c'est la découverte par Colette, en 1909, que Willy, joueur invétéré, avaient vendu en cachette à leurs éditeurs les droits des Claudines.
Si je vous vendais la totalité des droits des Claudines, combien m'en donneriez-vous?
De tous les romans?
Oui.
L'exclusivité à perpétuité.
Faites-moi une offre.
C'est cette tromperie qui sera irréversible. Littérairement, il ne s'en remettra pas. L'atelier fit faillite après la désertion de sa meilleure élève. Elle signe Colette Willy jusqu'en 1913 dans la presse et en 1922 en librairie, mais elle n'aura pas de pitié pour la misérable fin de vie de son premier mari.